Vous êtes sur RTL.
Deuxième invité d'RTL Soir, dans le carrosse du port, le chauffeur d'Harvey Weinstein à Cannes témoigne. Bonsoir Michael Chemloulin.
Bonsoir Marco.
Vous publiez Le démon de la croisette, Harvey Weinstein côté coulisses. Vous y racontez, et on va y venir dans un instant, les frasques du tout-puissant producteur lorsqu'il était au Festival de Cannes entre 2008 et 2013. Déjà, pour commencer ce livre, vous l'aviez commencé avant les révélations du New Yorker en octobre 2017, à l'origine du mouvement MeToo.
Absolument, absolument. J'ai commencé l'écriture sous forme de thérapie avec mon psychiatre et mon épouse qui est psychothérapeute pour justement témoigner de ce qui s'est passé réellement entre Harvey Weinstein et son chauffeur qui est Michael Chemloul pendant 6 ans.
Parce que c'était si dur que ça, vous aviez besoin de psychiatre, on va raconter le détail de ce dont vous avez été témoin et aussi le fait de ne pas l'avoir dénoncé à ce moment-là, c'était si dur que ça?
Oui, quand on en parle, ça a l'air d'être anodin, mais effectivement, j'ai au fond de moi-même, j'ai été plus qu'humilié, injurié, insulté et tout ce qui s'ensuit.
Et traumatisé.
Et traumatisé, mais après c'est la violence physique qui prend le dessus, et là on peut plus rien dire d'autre que d'écrire. Et je ne pouvais pas lui rendre la monnaie de sa pièce le jour où il a levé la main sur moi. Je m'étais dit, c'est mieux d'écrire, et avec ma plume, je pourrais peut-être lui rendre la monnaie de sa pièce et le frapper ainsi.
Votre plume, vous dites, voici le portrait d'un ogre sexuel, d'un monstre moral, d'un cyclope sorti tout droit des temps archaïques. Il n'a qu'un œil, celui de la bestialité, et il se fout de la décence. C'est ça, la réalité de Harvey Weinstein. Vous le racontez en détail, vous acceptez de le conduire et vous dites déjà, avant de parler de sexe, dans la voiture c'est un port, hein, sans aucune décence, il met la berline sans dessus-dessous.
Complètement, c'est plus une berline en fait, c'est un cauchemar ambulant, c'est des scénarios qui sont plus jusqu'aux genoux, des téléphones qui volent, des batteries qui volent, des chaussures qui volent, des insultes qui accompagnent tous ces gestes, et c'est un moment très panique. Et malheureusement, on est obligé de voir, j'ai été par défaut, son factotum. Je suis rentré dans son intimité sans être son ami. En fait, j'étais son
intimité, c'est son intimité et son rapport au sexe. Vous comprenez son addiction très vite. D'ailleurs, il se balade toujours avec une mallette à laquelle il tient comme la prunelle de ses yeux. Vous pensiez que c'était aussi important. En fait, c'est des sextoys déjà.
Eh ben, un moment d'inattention ou peut-être qu'il s'en foutait royalement parce qu'arrivé à un certain stade avec Harvey Weinstein, on sait tout de lui. Et automatiquement, quand on voit des objets qui a trait au sexe et genre sextoys, des stimulants sexuels, etc., etc. On se demande où c'est qu'on est vraiment, où c'est qu'on est.
Vous êtes dans sa voiture, dans laquelle il peut ramener jusqu'à 7 filles avec lui. Il vous demande d'acheter des préservatifs aux fruits, du Viagra, des femmes que vous raccompagnez chez elle de temps en temps, notamment des filles qu'il abuse ou en tout cas avec qui il a des relations sexuelles en même temps. Et vous les décrivez comme ça, la mine déconfite, en pleurs, parfois prise d'une rage indescriptible. Il y a un moment où les choses se dérèglent complètement, même si c'est déjà pas terrible avant. C'est évidemment au moment de The Artist, on est en 2012, et vous écrivez « J'ai compris alors, puisqu'il reçoit la Légion d'honneur, que cette Légion d'honneur avait produit quelque chose en lui, un vaste choc dans sa tectonique mentale. Derrière, il se sent intouchable. »
Absolument. On aurait dit que cette Légion d'honneur lui donnait plein pouvoir et plein d'abus de pouvoir, en fait. Il fallait qu'on le voie avec cette rosace. Ça a exacerbé sa violence physique. Et puis, c'est vrai qu'il se sent plus. Quand on est avec Harvey Weinstein, il faut que tout doit accepter, tout doit être au millimètre près, à sa convenance. Et si jamais ça ne va pas, c'est des hurlements, c'est des humiliations, c'est des insultes. Et c'est tout le temps comme ça. Et je me demande aujourd'hui comment j'ai pu résister à ça pendant presque 6 ans.
Alors on va y venir, parce que comment vous avez pu résister et être témoin de choses sans les dénoncer. Vous racontez ce qui se passe en marge d'une soirée organisée par Brad Pitt à la Villa Saint-Georges, à laquelle il se rend avec sa femme. À un moment, il vous demande de déplacer la voiture, il monte avec un mannequin, vous devez attendre dehors. Et là, vous écrivez, elle crie, elle se débat, ses mains agrippent la vide dégoulinante d'humidité. Il lui mord les fesses, déchire sa culotte, se déchaîne sur elle comme un étalon sur une jument. Il est sans doute en train de la violer. Quand elle sort, elle l'insulte. Sale gros con, vieux sadique, j'espère que tu tiendras au moins ta promesse. Et vous dites 2 ans plus tard, en regardant la cérémonie des Oscars, vous avez reconnu cette actrice, entre-temps devenue l'héroïne d'un film primé, brandissant une statuette. C'était ça le système Weinstein.
Tout à fait, c'était ça, oui. Il fallait accepter ses désirs pour pouvoir évoluer dans son activité professionnelle. Et franchement, aujourd'hui, on se demande pourquoi ces actrices, certaines d'actrices, parce que beaucoup plus les Américains n'ont parlé que les Françaises, et je me demande pourquoi les Françaises ne parlent pas aujourd'hui.
Parce que vous avez été témoin, sans les citer, de même scène, mais avec des Françaises.
Aussi, oui. aussi.
Aujourd'hui, vous le racontez. Mais pourquoi vous ne le racontez pas à l'époque? C'est aussi la question qui se pose quand on vous dit. On se dit, mais il fallait le dénoncer, vous êtes témoin d'un viol. Hein.
Mais qui pouvait, à cette époque-là, venir confronter Harvey Weinstein, lui dire, arrête de faire ce que tu es en train de faire? Mais c'est impossible. Il était tellement puissant, influent dans le... C'était
Dieu
le père.
Vous avez eu peur comme ces filles ont eu peur?
En fait, je suis rentré dans cette omerta qui est venue se loger dans les loges des concierges, sur la Côte d'Azur, dans le monde entier. Et tout le monde me disait, mais Michael, fais la figurine des trois singes. T'as tout vu, t'as tout entendu, mais tu ne parles pas.
Mais dans les coulisses, tout le monde savait, les autres producteurs, les acteurs, les actrices, les gens qui travaillaient pour lui, tout le monde savait.
Mais tout le monde l'adulait. C'était Dieu le Père. C'était non, Dieu vivant du cinéma.
L'adulait en connaissance de cause, c'est
en,
ça
en connaissance de cause. Je suis sûr et certain que Quentin Tarantino était au courant. Brad Pitt, il a voulu lui casser la gueule. Et il y avait tas de gens, d'acteurs et de metteurs en scène et de réalisateurs qui étaient dans le coup, mais qui se tenaient en respect parce qu'il leur donnait du travail.
C'est
et
ça,
même
c'est
Tarantino,
ça,
il a dit je ne pouvais pas travailler avec lui si j'avais tout dit. Moi, en fin de compte, j'ai commencé à comprendre progressivement. Au bout de la quatrième année, j'ai pris une claque dans la gueule et c'est ça qui m'a fait réveiller.
Une vraie claque, parce qu'il y a la violence d'Harvey Weinstein, d'ailleurs vous le racontez, il y a sa vulgarité et sa violence. D'ailleurs, il balance un de ses collaborateurs par-dessus bord d'un yacht. C'était aussi ça, le sexe, la bestialité, la violence, et vous en avez été la victime, et c'est ça la bascule pour vous.
Tout à fait. J'ai été touché au fond de moi-même, et je me suis dit, ça y est, là, ça va mal. L'année d'après, au moment du clash, c'était à Saint-Tropez, et c'est là où, je crois, l'impossible est arrivé. Ce que j'imaginais 2 ans auparavant est arrivé. C'est-à-dire, porter le chapeau pour lui, et me porter à défaut, et me dire, c'est de ta faute si les deux corgueules n'étaient pas
Puisque là. Puisqu'il s'apprête à retrouver deux jeunes femmes après avoir pris du Viagra, elles sont pas là, et donc c'est vous qui reprenez la foudre, la violence inouïe, et là, pour le coup, dans les côtes, un coup de poing dans la nuque, il se déchaîne contre vous, et pour vous, là, c'est stop.
Hein. Là, c'est stop. Je capitule. Là, je me dis, Michael, t'es arrivé au summum. Harvey Weinstein, c'est un cycle. T'as fait 6 ans et demi avec lui, tu feras pas 7 ans. Et j'ai pris conscience 5 ans et demi après. Les gens me disent, mais pourquoi vous avez pas parlé avant? Mais vous êtes complice, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais se mettre dans la peau de Michael conduisant Harvey Weinstein, j'aimerais mettre au défi n'importe quel chauffeur sur la place de Paris pour me dire qui peut supporter ce que j'ai supporté.
Porter plainte, c'est pour vous aujourd'hui quelque chose qui est envisageable. Il y a une plainte qui a été classée sans suite, mais à New York, c'est
New
ce
York,
que vous souhaitez le faire.
Je compte porter plainte au civil parce que c'est le seul recours qui me reste. Le livre m'a permis de dire ouf. Bon, les gens savent maintenant ce qui s'est passé entre lui et moi, mais par contre, je serai guéri totalement le jour où il sera incarcéré, définitivement.
Le démon de la croisette, Harvey Weinstein, côté coulisses, chez Baker Street. Merci beaucoup, Michael Chemloul. Merci à vous.
Je vous en prie, Marco.
RTL Soir, 18h49.